Votre podcast Swing vous est présenté par Strixon et ses balles Z-Star, Z-Star XV et Z-Star Diamond. Victorieuse sur tous les circuits, elle performe comme vous l'exigez. Brooks Koepka, Hideki Matsuyama ou encore Shane Lowry les utilisent. Alors pourquoi pas vous? Les balles Z-Star de Strixon sont disponibles dans plus de 600 points de vente en France.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 sur Free et 193 sur Bouygues. J'ai le plaisir d'être avec Arnaud Thioux et Benjamin Cadieux de Journal du Golf.
Salut JP.
Comment ça va?
C'est historique là,
on
se passe
enfin,
un truc là.
On nous voit enfin depuis le temps que Frédéric Schmitt nous parle de ce podcast filmé.
Bah, il a dit, hein, j'en peux
parti.
Plus. Je n'en peux plus.
Le truc c'est que maintenant faut bien se tenir.
Ouais, maintenant faut bien se tenir.
Avant on nous voyait pas.
On peut plus avoir aussi, il va falloir qu'il m'insiste aussi. Si c'est possible.
On peut plus avoir les pieds sous la table, sur la table, Benjamin.
Et les doigts dans le nez, c'est fini.
Exactement, c'est fini. Bah, comme d'habitude, hein, on va quand même parler de l'actu golf, on va parler du Live Golf cette semaine, de Paul Barjon. Notamment aussi un peu de Lexi Thompson qui va jouer
quand
sur
même,
le PGA Tour.
C'est le gros truc.
Et puis voilà, et puis c'est parti et en image. Allez messieurs, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Une partie de golf, un fait marquant, vous Arnaud, je crois que c'est un parcours de golf en France.
Bah ouais, j'ai joué Dinard chez notre ami Gilles Paris et il faisait beau, il faisait quasiment 30 degrés, pas tellement normal malheureusement au mois d'octobre, enfin. Du coup, on en a profité et je comprends pas pourquoi.
La mer était toujours là?
La mer était toujours là, c'était marée basse, même la plupart du temps, très basse. Mais je comprends pas pourquoi Dinard n'est pas mieux classé dans les classements français. C'est vraiment un des plus beaux parcours français, si vous ne l'avez pas joué. Allez découvrir
les trous
Dinard.
De l'intérieur, non? Peut-être
peut-être un peu court, le parcours
Non, je sais. Moi, pour moi, je pense qu'il est très dur, malgré le fait qu'il soit assez court et que voilà, les joueurs s'y cassent un peu les dents. Parce que même les trous de l'intérieur, ils sont quand même très sympas à jouer. Après, ils ne sont pas aussi scéniques que les trous du bord de mer. Mais les trous du bord de mer sont tellement extraordinaires que...
C'est voilà, pareil avec Pléneuf ou avec d'autres parcours de
ouais,
côte.
Enfin, Pléneuf, il y a un ou deux trous spectaculaires à Pléneuf. Mais il n'y en a pas autant qu'à à Dinard.
Et Dinard, on mange très bien, notamment et le dimanche midi, le buffet de crustacés.
Oui, avec un célèbre...
Yvan le Terrible qui a pris sa retraite. Apparemment, j'ai des infos, c'est aussi bon qu'avant. Même s'il n'y a plus le... Ce personnage.
Je confirme, c'est aussi mon cas.
Il n'y a plus ce personnage qui était Yvan, enfin, qu'on surnommé Yvan le Terrible, je ne connais pas son vrai nom. Mais... D'ailleurs, ils lui ont offert un abonnement à vie au golf de Dinard pour fêter sa retraite.
Question importante, Arnaud, le score. Combien vous avez joué?
Ah bah c'était du foursome mixte.
Justement.
Mais Fontainebleau a laissé la cuillère de bois à Chantilly. Je passe un bonjour à nos amis de Chantilly. Voilà, c'était une triangulaire.
Transition toute trouvée, Jean-Philippe. Moi, j'ai joué en foursome. Et j'ai redécouvert ce que c'était de jouer en foursome avec...
Alors rappelez pour ceux qui ne connaissent pas...
C'est formule par coup alterné, donc c'est du
la
double.
Formule la plus dure du golf,
oui, ce qu'on voit en Ryder Cup.
Mais quel plaisir c'est de jouer en foursome, c'est toujours un petit peu frustrant, il faut retrouver le rythme de pas sortir son club pour jouer un coup qu'on a envie de jouer, mais c'est génial de partager ça avec quelqu'un. Donc retrouver la joie du double, c'était mon highlight de la semaine dernière, Jean-Philippe.
Eh bien moi, c'est les images impressionnantes qu'on a vues à Rome. Alors c'est pas très... pas très heureux, on va dire, mais cet incendie qui s'est déclaré juste après la Ryder Cup, là, dans une tente d'hospitalité, c'était assez impressionnant de voir ces images. Heureusement que ce n'était pas pendant l'événement.
Comme tu l'as bien dit, on en parlait par message, comme tu l'as bien dit, au moins c'est réglé pour le démontage.
Ouais, mais justement, c'était pendant ce démontage. Alors, une enquête est en cours pour déterminer un peu les
J'espère
causes de cet incendie.
Vous me donnez le résultat de l'enquête.
On va suivre ça de très près.
L'inspecteur Vesuvio est sur le coup.
On demandera à Thiborès, d'ailleurs, de mener l'enquête directement depuis Rome. Allez, messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On commence forcément par le Live Golf qui n'a pas eu ses points mondiaux. Encore une fois, c'était prévisible.
C'était malheureusement prévisible. Non, ce qui est drôle, c'est quand même que Peter Dawson, le patron du RNA, qui l'a annoncé, a quand même joué avec Al Roumayan, le patron du Live. Donc on s'est dit qu'ils allaient s'arranger, et puis pas du tout.
S'arranger, c'est-à-dire?
Non, enfin en tout cas que c'était voilà que ils allaient faire copain-copain.
En tout cas, il y a dialogue.
Voilà, il y a dialogue, mais bon, mais enfin, on s'y attendait et malheureusement, enfin moi, on a beau diffuser le Live, c'est normal. Le Live, c'est quand même 54 trous sans cut.
C'est ça qui bloque toujours, c'est les trois tours sans
surtout,
cut.
Ils ont dit plutôt le système de montée-descente, c'est quand même un circuit un peu fermé.
Close donc, shop, ils disent. Voilà. Donc vraiment, ils font leur cuisine interne, c'est un vase clos.
Donc forcément, s'il y a des points mondiaux, ils vont toujours rester là et de la même façon. Donc,
logique plus qu'injuste, finalement.
Oui, c'est un peu normal. Après, il faudrait quand même qu'ils laissent les joueurs aller comme ils veulent sur le PGA Tour et sur l'European Tour.
Alors,
ça, d'ailleurs, L'histoire n'est pas finie.
Alors Arnaud et Benjamin, petite réaction de Bryson DeChambeau qui dit « c'est triste, mais c'est la tendance de ces dernières années. Selon moi, il faudrait nous donner des places en majeur en fonction de la façon dont nous sommes classés sur le livre à l'issue de la saison. En gros, une nouvelle catégorie dans les majeurs, une catégorie 12, 14B pour la qualification. »
L'expression, il a touché la cape à Zorro.
Non, mais c'est sûr, on peut pas. Non, il faut faire comme Kopka.
Ils ont fait un choix, c'est entre guillemets bien fait pour eux.
C'est pas bien fait pour eux, parce que faut pas dire ça non plus, mais c'est sûr que il faut qu'ils jouent mieux, il faut qu'ils gagnent comme Kopka. Ils ont pas le choix, ils ont choisi quand même l'argent, faut le reconnaître. Ils ont été pour l'argent sur ce circuit, et ben avec l'argent, de temps en temps, vous avez des choses en moins. Ben, ils ont l'argent, mais ils ont pas les qualifications en majeur, ça me semble logique. Après, on peut le déplorer quand même, parce que c'est vrai que l'année dernière...
Oui, mais surtout, on attendait que ça, de voir
De les voir se retrouver, voilà. Et là, on va les voir de moins en moins, donc en tout cas, c'est dommage. De toute façon, on ne cesse de le répéter depuis le début, on a beau les diffuser, cette fraction n'est bonne pour personne, cette fraction au sommet du golf mondial.
Benjamin,
on espère que ça va pas durer.
Les majeurs ont besoin quand même de certains joueurs du Leaf Golf, en tout cas des joueurs Dustin Johnson, Patrick
Reed. Quel tournoi de golf n'a pas besoin de Bryson DeChambeau, de Dustin Johnson,
de Cameron Smith,
du putting de Cameron Smith ou du swing de Louis Oosthuizen. On a besoin des meilleurs joueurs sur les meilleurs tournois, donc on espère que la possible fusion dans les mois à venir pour éventuellement 2025 va...
Ce qui voudrait dire que les joueurs du Leaf pourraient jouer le tour européen,
Moi, j'ai toujours été pour ça. C'est des travailleurs indépendants. Pourquoi les travailleurs indépendants ne peuvent pas aller et venir à leur guise? Ils ne sont quand même pas salariés du tour, même s'il y a le PIP,
Si ils peuvent venir à leur guise, c'est sûr que tout le monde va aller sur le Leaf quand même, quoi. Et donc là, le PGA Tour et le Tour européen, ils ne seront pas bien. Donc non, c'est toujours
pareil. Surtout, les problèmes des points mondiaux seront réglés. Quoi. Il n'y aurait plus besoin d'avoir des points mondiaux pour le livre.
Ils iront en marquer ailleurs. En tout cas, ils auront la possibilité d'en marquer ailleurs. Ce que les joueurs exclus du Tour européen ne peuvent pas. On a vu quelques invités, O'Donnell, Taylor Gooch. Tous les joueurs qui n'ont pas été exclus par le Tour européen de facto ont pu jouer le Donil la semaine dernière.
Alors en tout cas pour Cameron Smith et Brooks Koepka, eux ils sont assurés en tout cas de jouer encore quelques années ces tournois majeurs. Rappel, Cameron Smith vainqueur du British 2022, Brooks Koepka vainqueur de l'USPGA l'année dernière. Pour eux c'est réglé et tant mieux finalement.
Le playbetter qu'a signalé Arnaud, donc ils ont juste qu'à mieux jouer au golf les joueurs du Yves. Ils ont très peu d'occasions, mais...
Ouais, du coup, repli sur l'Asian Tour pour certains des joueurs.
Tant mieux pour nous qui avons les droits de l'Asian Tour.
On a les droits.
Voilà, on va les voir jouer sur l'Asian Tour de plus en plus souvent. Ils n'auront pas le choix s'ils veulent ne pas descendre ou trop descendre au classement.
Alors justement, le livre, quel avenir? On ne sait pas trop. On sait que l'année prochaine, il y aura une saison 2024. 2025, c'est le flou total. Messieurs, votre avis là-dessus, est-ce qu'il faut que le livre continue tout simplement? Est-ce que
bien sûr que non, il ne faut pas que le livre continue. Non, il ne faut pas que le livre continue.
Mais pourquoi?
Il faut que les meilleurs. En tout cas, le livre peut continuer, ça ne me dérange pas. Je me suis peut-être mal exprimé. Mais en tout cas, il faut que les joueurs du livre puissent aller ils veulent. En tout cas, à ce moment-là. Mais je ne pense pas que ça puisse. Je vois pas comment le livre peut exister avec les joueurs qui peuvent aller n'importe où. Enfin, ça me semble difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais cesser de le dire. En sport, il faut que les meilleurs s'affrontent. Quand il y a scission, ça n'est pas possible que ça... Enfin, en tout cas, c'est une perte pour tout le monde. Donc, moi, je ne souhaite pas que le livre continue. Ou alors, en tout cas, il faudra que tout le monde puisse y aller. Mais encore une fois, je ne vois pas comment.
Benjamin, plutôt pour la poursuite du Leaf Golf ou
En début d'émission, on me demandait ce qui avait marqué la semaine. C'était comme Arnaud, on a joué en double le week-end dernier. C'était génial. Il va y avoir un petit peu de double à la finale du Leaf. Et ça inclut le golf en équipe, c'est-à-dire double suspense. Le tournoi en individuel en même temps que le tournoi par équipe. D'ailleurs, je crois que ça pose un peu problème à Peter Dawson
Je pense qu'ils trouvent toutes les raisons possibles.
Ils ont dit que c'était que des raisons mathématiques. En tout cas, au moins, ça aura apporté ça. Ça aura fait bouger les choses. Et on va peut-être se retrouver avec un circuit quasiment mondial. Dans 2 ans, c'est possible. C'est ce qui est envisagé. On a entendu parler de bruit du Super League mondial à 18 gros tournois où les joueurs de n'importe quel circuit pourront aller. Donc au moins, ça aura fait bouger les choses. Et je pense que le golf, qui est quand même un milieu hyper conservateur, a besoin de bouger. Et au moins, ça aura servi à ça, le livre. Quoi.
Alors en tout cas, il y a une nouvelle ligue qui va arriver. C'est la Tiger Woods League, la TGL. On en sait un petit peu plus. On connaît un peu les contours. Ça commence en janvier. Arnaud, on en sait un petit peu plus sur le format. En tout cas, bourré de nouvelles technologies, hyper dynamique.
Des équipes de 3 joueurs qui s'affronteraient en match play au début. En alternate shot. Et puis après, ça finirait en simple sur les derniers trous, sur 15 trous, concentrés.
Tout en simulateur, on l'a
rappelé. Voilà, tout en simulateur.
Et avec du public.
Avec 15 000 personnes ou 20 000 personnes autour.
Chouette.
avec simulateur pour les premiers coups, et après tout ce qui est sur le green et sortie de bunker, et il y aurait un vrai green avec des vérins
pour énorme.
Pouvoir non mais honnêtement
c'est dans l'air du c'est hyper dans l'air du temps là.
En deux heures de réduit sur deux heures le lundi soir ou le mardi soir aux États-Unis moi je suis persuadé que ça va faire un carton. C'est sûr que le golf on l'a vu malheureusement ces derniers temps en jouant des tournois avec les professionnels ça joue en 5h30, c'est plus possible quoi. Enfin, c'est plus possible. Ça l'est malheureusement, mais c'est. Et là, en deux heures de temps, vous faites quasi, bon, peut-être pas 18 trous, mais 15.
Et puis c'est cette recherche de nouveauté, un peu de dynamiser, de pas de rajeunir, mais de donner une
quelque chose de nouveau, de connecter
et de plus rapide, surtout.
Plus rapide dans un stade avec du public,
avec des gros noms surtout.
Voilà, avec des noms.
Ce qu'on annonce, c'est impressionnant. Tiger Woods, McIlroy,
Justin Thomas,
Tyrell Hatton, Fitzpatrick.
Fitzpatrick, enfin, c'est.
Ian Rahm aussi peut-être.
Ouais, non, c'est impressionnant. Les voilà, il y aura quasiment les 18 meilleurs joueurs du monde ou 18 des 30 meilleurs en tout cas, donc non, c'est ça s'annonce vraiment.
C'est excitant, Benjamin, ça, ce genre de.
Bah, je trouve que c'est hyper moderne dans l'air du temps, parce que l'autre jour, je vais souvent taper du côté du Tremblay dans le 94, ils ont installé une trentaine de 30 spots Trackman sur le tapis, sur les tapis, et c'est un carton absolu. Les gens font la queue, et même des gens qui décollent à peine la balle, ils sont avec leur
iPhone pour voir les stats,
mais pour voir les données. Alors la balle a fait pof pof, mais ils sont quand même à regarder combien de spins elle prend la
vous
balle.
Vous avez vu Jean-Philippe une fois, non
pas encore.
Donc ça marche sur n'importe quel type de structure, sur les grands parcours comme sur les petites structures urbaines. Donc on est pile dans la modernité, on est pile en 2023.
Et c'est vrai que maintenant sur les tournois, quand on n'a pas les traceurs qui simulent la balle, on est quand même frustré. Une balle de golf, ça vole. Pendant quelques secondes, et on ne sait pas trop si la balle elle va à droite, à gauche. Maintenant, on a besoin de savoir quasiment dès que la balle quitte le club. Et là, ce qu'ils vont faire sur cette ligue, c'est évidemment, il y aura des traceurs en permanence, il y aura toutes les statistiques. Enfin, c'est
pour donner aussi un côté un peu plus jeune au golf.
Moderne. J'espère qu'on aura les battements par minute, enfin tout ce qui est donné.
Ah, qu'on avait vu par le sponsor Whoop, où on avait vu Justin Thomas l'avoir, et pendant un putt qu'il avait rentré, je crois, en play-off pour remporter un tournant, on voyait là. La balle allait vers le trou et on voyait le rythme cardiaque de Justin Thomas augmenter. C'était assez marrant.
Il y aura des micros aussi sur tous les joueurs, donc on entendra toutes leurs conversations.
Mais du coup, il n'y a plus de caddie.
Ah, il n'y a plus de caddie.
Donc il n'y aura pas de Joe Lacava.
Ah. messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, sur Free Canal 187 et sur Bouygues Canal 193 et bientôt sur Samsung, sur toutes les télés connectées et les mobiles. On est ravis de vous retrouver, de vous voir enfin, que vous allez pouvoir nous voir.
T'es beau.
Ouais. Et on va parler de la victoire de Paul Barjon. Quoi ?
On les voit ?
On peut les voir. D'accord. Non, ça, c'est dans le futur.
D'accord.
On va parler de la victoire de Paul Barjon. Paul Barjon qui a gagné la...
Qui sauve sa saison.
Qui sauve sa saison en remportant le dernier tournoi du Korn Ferry Tour.
Son deuxième tournoi cette saison.
Il était 44e avant cette finale du Korn Ferry Tour.
Pas 45
Non, 44e. On a vérifié sur nos petites fiches. Les 30 premiers étaient seulement qualifiés pour le Korn Ferry. Voilà, vous l'avez dit Arnaud, une victoire qui sauve la saison de Paul Barjon et qui le propulse sur le PGA Tour.
Il avait fait des bons tours, mais il n'avait pas fait vraiment beaucoup de tournois en dehors de sa victoire. Et là, ça change tout.
C'est clutch. Faire 64-68 le week-end pour monter sur le PGA Tour, quand on sait ce que ça vaut de monter sur le PGA Tour.
Ouais, quand on sait l'opposition
qui est en face. Et deux victoires au bon moment, on a l'impression, pour Paul Barjon, parce que sa première victoire, finalement, il a gagné
la première, je ne sais pas si c'est au bon moment.
Mais... Ouais, et puis finalement, il n'était que 44e en gagnant une victoire. Mm. Donc là, cette dernière victoire... C'était tout ou rien, finalement.
C'est un joueur qui pique et qui sait exploiter ses piques, au mieux.
Alors, une phrase distillée par Paul Barjon à notre ami Lionel Vella de Golf Planet, qu'on salue. L'objectif est de rester sur le PGA Tour, de gagner des tournois et de gagner des majeurs. Rien que ça, messieurs. L'hypothèse la plus probable l'année prochaine, c'est déjà conserver sa carte.
Il n'a pas réussi à le faire l'année dernière.
170e, il a terminé du PGA Tour, 171e.
Donc il en était quand même assez loin, mais on l'avait pas mal suivi sa saison aussi, on l'avait interviewé. Je me souviens qu'il s'était un peu énervé quand je lui disais qu'il en était un
avec
peu
vous Arnaud, c'est
assez... qu'il était un peu loin de conserver sa carte, mais c'est vrai qu'on sait très bien qu'en golf, déjà il faut des années pour on peut progresser pendant des années, et puis à un moment il peut aussi manquer un déclic. Il avait fait un ou deux très bons résultats sur le PGA Tour, ça n'avait pas continué, mais voilà, en tout cas il apprend le métier. Regagner sa carte, ça prouve quand même qu'il est en train de passer un palier. Et donc
il s'est exploité ses bonnes semaines, en tout cas, plus qu'au mieux. Là. Voilà. Encore donc, la preuve.
Il a toutes ses chances de conserver sa carte l'année prochaine. Pour le reste, voilà, déjà,
step conserver
sa carte. Voilà. On rappelle qu'il n'y a qu'un Français dans l'histoire qui a conservé sa carte sur le PGA Tour. C'était un certain Jean Van de Velde au tour des années 2000.
Thomas Levé ne l'a jamais conservé.
Non, jamais personne n'a conservé sa carte, enfin aucun Français à part Jean Van de Velde.
Et donc rendez-vous compte, messieurs, l'année prochaine, 2024, on pourrait avoir trois Français sur le PGA Tour. Donc Victor Pérez, c'est fait via le Tour européen. Romain Langas, qui est, on va dire, en balance favorable, oui, là, il reste deux.
Non, défavorable, mais.
Défavorable, mais.
Mais il est à deux places.
Voilà.
Voilà, voilà, mais il joue un tout petit peu moins bien sur ses derniers, tournois, en tout cas sur. O'Donnell et même sur celui d'avant, il me semble. Donc,
s'est noyé, O'Donnell.
Il a fait un très bel été. Et voilà, s'il retrouve son niveau de jeu, pourquoi pas, ce serait fabuleux.
Justement, juste avant de retirer, je rebondis sur O'Donnell.
Là, tu Benjamin. Vas pas rebondir très haut, ouais, vu comment il a plu là-bas.
Tournoi comme ça, qui se termine sur trois tours. Certains joueurs ont dit que c'était pas très...
Pas certains joueurs, Josh Lutten.
Juste Lutten, du coup, aussi, avec lui.
Il a dit que c'était pas très fair que le tournoi se termine comme ça.
C'est déjà un tournoi pas très fair de nature. Le Denis, c'est quand même très bien doté, c'est sur la home du golf, mais c'est déjà assez unfair de nature de jouer au bord de la mer. Vous jouez entre quelqu'un qui joue le matin à Carnoustie et l'autre l'après-midi de l'autre côté de la baie à Saint-Andrews, ça peut être deux saisons, voire trois saisons différentes dans les deux mêmes parties, donc ça fait partie du truc. Bah là,
il n'y a pas trop d'écart quand même dans les départs, hein. Ils partent tous à peu près au même moment, ouais. Mais c'est sûr que ce n'est pas le tournoi le plus fair de la saison.
Puis quand on regarde le vainqueur, Matthew Fitzpatrick. Ouais, ouais.
Bon. Le problème, c'est que ça tombe sur un tournoi hyper bien noté, qu'on a en fin de saison, qu'il y a des joueurs qui se battent pour garder leur carte, et c'est vrai que ça peut être assez mal vu.
Ce qui n'est pas le cas de Josh Witten, d'ailleurs. On se demande un peu pourquoi. Bon, ouais.
Bon, parenthèse refermée, messieurs, on le disait, trois Français sur le PGA Tour. Du jamais vu.
On n'y est pas.
Mais ce serait du jamais vu.
Ce serait du jamais vu, oui. Ouais. Mais de toute façon, on ne cesse de le répéter que le niveau du golf français monte. Pas très, très vite, c'est pas évident. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de joueur en Ryder Cup. Mais chez les filles, l'affaire est réglée, on a une des meilleures joueuses du monde. Chez les garçons, c'est sûr que c'est un peu plus.
Mais surtout,
un peu plus long, mais ça grimpe. Encore une fois, on le rappelait avec Eric Doinel ici, la première victoire sur le Tour européen, c'est Jean Van de Velde en 93. Depuis, on a des victoires chaque année sur le Tour européen, et même plusieurs généralement. Donc, ça progresse. Maintenant, la prochaine étape, c'est le PGA Tour.
Trois joueurs, ça peut commencer à établir un camp de base français. Exactement. Ouais, même si les joueurs ne sont pas... je ne sais pas s'ils sont amis entre eux.
Camp de base français.
Mais un camp de base français,
c'est-à-dire... C'est vrai que les Européens ont souvent du mal à s'intégrer à la vie à l'américaine. Là, ça pourrait créer
vous êtes amis, imaginons Romain Langasmon, vous êtes amis avec Langas, vous allez squatter chez lui, entre guillemets. Il va faire sa saison sur le PGA Tour, il va commencer à connaître un ou deux caddies sur place, qui va pouvoir recommander à un autre joueur français qui monte.
Ça
peut être la solution pour que les joueurs s'installent et forme à long terme sur le PGA Tour.
C'est sûr.
Vous y croyez en tout cas bon, après, il peut y avoir aussi Martin Trainer, même s'il est un peu loin.
Il y a des Belges et des Italiens, donc pourquoi pas des Français quoi.
Bien sûr.
En termes de densité. Non, mais en termes de densité golfique, il y a plus de golfeurs français que de Belges. Il y a encore Dumont Chassard qui monte chez les Belges via le Korn Ferry.
Ils commencent à nous énerver, ces Belges.
Ils sont bons, hein. Il faudrait qu'on refasse une couve.
Ils sont moins nombreux que nous, mais.
On va refaire une couve, Jean-Hel du golf.
Ils n'arrêtent pas d'en sortir.
Ils ont même un vice-capitaine de Ryder Cup. Très bon.
Certains. Nicolas Colsart. En tout cas, on attend ça avec
Saint-Andrews et ça fait plaisir.
Ouais, on attend ça avec impatience cette année 2024 sur le PGA Tour. Messieurs, allez, avant de parler de Lexi Thompson sur justement le PGA Tour, Arnaud, vous avez eu la chance de joindre Hugo Cousseau. Hugo Cousseau qui est en tête du Challenge Tour, toujours en tête. Et justement, depuis la Chine, il nous fait un peu le...
C'est loin la Chine.
Ouais, c'est le bout du monde. Il nous fait justement le point sur sa saison avant ces deux derniers tournois. On l'écoute.
C'est vrai que ça m'a... Ça commence à faire un bout de temps que je suis en tête, même si les mecs se rapprochent et il y en a de plus en plus. On reste deux tournois. Il va falloir finir un peu mieux qu'eux pour garder ça, quoi, pour garder la première place. Ouais.
On a l'impression qu'il y a eu un petit coup de moins bien. Est-ce que tu l'as vécu comme ça, toi aussi, à un moment? Est-ce qu'il y a eu un moment dans la saison où tu t'es senti... Enfin, t'étais tellement sur une dynamique incroyable que c'était dur de continuer comme ça, mais est-ce que tu as senti toi aussi un petit coup de moins bien?
Ouais, bien complètement. De toute façon, ça s'est vu un peu sur les résultats. Ça a plus été un petit coup de moins bien au niveau. Le truc, c'est que j'ai atteint mes objectifs tellement rapidement. C'était assez surprenant, mais ça a été tellement vite que c'était dur finalement de continuer à, avoir les mêmes, la même envie tout l'été. Et on est arrivé sur des parcours aussi que j'appréciais un peu moins, un peu plus parcours type Challenge Tour européen. Ouais, c'est pas des parcours de golf que j'aime beaucoup. Donc, je me suis senti un peu. J'en ai eu un peu marre, quoi. J'ai eu un passage où j'aurais bien aimé que ça se termine plus rapidement. Mais bon, voilà, maintenant on y arrive. Donc, enfin, j'ai envie de dire.
Passage aussi sur le tour européen. Tu as joué quelques tournois. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais pas particulièrement brillé. On a l'impression que tu as eu un peu plus de mal à retranscrire sur le tour européen ton niveau de jeu du Challenge Tour.
Non. Bah après, c'était surtout les tournois un peu découvertes. Parce que bon, je connaissais ni les parcours, ni l'environnement, etc. Moi, je n'ai pas été mécontent. J'ai fait quelques cuts en début. Puis, c'est vrai, les derniers, bon, c'était des conditions un peu particulières. Mais, c'est surtout l'apprentissage, en fait, c'est pour gagner du temps pour l'an prochain, mettre des choses en place. Et voilà, donc non, moi je me sens plutôt à l'aise, enfin plutôt content de comment l'été s'est passé dans les conditions. Après, j'ai beaucoup moins bien poté qu'en début d'année, donc, ça complique un peu les choses. On va dire j'étais un peu sur une très très belle. J'étais dans le haut de la variance, en tout cas au putting au début d'année, donc ça n'a pas été aussi jovial dans l'été, mais bon, ça va tourner, c'est des situations qui se retournent, tout ça.
Justement, le tour européen, comment t'as jugé ton niveau par rapport au tour européen et qu'est-ce que t'en as tiré comme enseignement ?
Bon, j'ai pas été subjugué par le niveau des mecs. J'ai l'impression que quand je joue bien, je suis largement à ma place. Donc, après, le tour européen, c'est plus non plus vraiment ce que c'était. Tous les mecs, tous les meilleurs, ils sont aux États-Unis, mais tous les meilleurs joueurs mondiaux, je veux dire. Mais non, ça a été. C'est un tournoi comme un autre, quoi. Il faut bien jouer au golf. C'est des parcours un peu plus challenging dans le sens où les par 5 sont plus difficiles. Mais bon, voilà, si on joue bien, il y a des birdies à faire partout. Donc, non, il n'y a aucun. Bah, je me suis senti à l'aise, quoi.
C'était quoi ? C'est le retour sur le Challenge Tour ? C'était un peu. C'était un peu pas frustrant, mais enfin, tu te dis, bon, ça va, j'ai plus rien à prouver là. Donc, tu avais du mal à te motiver ?
Non, pas tant ça, mais c'est plus les parcours, quoi. C'est des parcours quand on arrive en Europe qui sont vraiment moins, qui font moins rêver, quoi. C'est pas ce qu'on a joué en début d'année, aux États en Afrique du Sud, à Abu Dhabi, même en Inde, où le parcours était qualité incroyable. On joue des parcours, c'était franchement, on a eu un gros passage de parcours de pas bon, quoi. Donc là, pour le coup, quand on arrive, que l'objectif est déjà atteint, c'est plus dur, en tout cas, d'avoir les crocs, ça c'est sûr. Après, moi, j'ai eu l'impression de faire le taf quand même si j'avais des moments, on va dire que je me suis un peu mentalement, j'étais moins solide, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'ai eu du mal à me refixer des objectifs et à m'y tenir, en fait. Donc, voilà, ça, c'est une bonne leçon pour les prochaines années aussi, j'imagine.
Là, avant d'aller tournoi de la saison en Chine, comment est le parcours ? Comment tu te sens ?
Comment est le parcours ? Alors, j'ai fait le programme aujourd'hui. Écoute, le parcours, il est correct. C'est pas France Brésil. Les greens sont pas très bons. Honnêtement, de se taper 12 heures de vol pour venir ici, c'est pas l'idée. Enfin, voilà. On n'aurait pas signé son fond, messieurs. Mais bon, maintenant qu'on est là, c'est pareil. Il faut tirer une bonne semaine et il faut essayer d'optimiser son niveau de jeu. Donc, on verra. Je me sens pour l'instant pas au top parce que j'ai le décalage horaire, les nuits dans l'avion, donc je suis tout raide. Mais le tournoi commence vendredi, donc j'ai le temps de m'en mettre en forme et on verra vendredi.
Et dernier tournoi de la saison, la grande finale en Espagne, là ça va être l'apothéose, j'imagine que là t'as hâte.
Non, là c'est qualité là-bas, là c'est vraiment la super semaine de l'année, d'autant plus dans ma position. Mais bon, il y a toujours, même si je sais que je monte, j'ai quand même envie de garder la première place, donc je vais arriver avec vraiment, vraiment les crocs. Et puis bon, c'est un super parcours, j'espère qu'on aura des bonnes conditions météorologiques. Mais le parcours est magnifique, on est accueillis, fantastique. Donc ouais, pour le coup, là, c'est vraiment une semaine qui me fait envie et j'ai hâte de m'y retrouver, ouais. Vraiment.
D'accord. Pour terminer, tu as commencé déjà à regarder le calendrier de l'année prochaine. Tu sais déjà comment tu vas commencer ta saison sur le tour européen ?
Ouais, complètement. Je vais commencer par les trois tours en Afrique du Sud. dès fin novembre. Comme ça, je continue la saison sur l'année 2023. Et après, je ne vais pas aller à Maurice, je pense pas, parce que je vais prendre un gros mois de break pour pouvoir refaire un gros cycle physique, reprendre un peu de poids, parce que j'ai perdu du poids là au fil de la saison. Pour retrouver vraiment être en pleine forme l'an prochain, arriver sur le tournoi à Dubaï aux Émirats, vraiment, vraiment au top. Donc, voilà, c'est un peu le plan.
Ouais, messieurs, Hugo Cousseau. Tiens, dernier Français à avoir gagné le Challenge Tour.
C'est lui. Mais il n'a pas gagné le Challenge Tour. Il a gagné la finale en 2007.
Mais il a gagné le Challenge Tour.
Il gagne le Challenge Tour en 2007.
Michael Lorenzo Vera.
C'était en Italie.
2007. C'était à San Domenico.
J'avais été fêter ça à Biarritz, oui.
Voilà. On espère en tout cas que Hugo Cousseau termine en tête. Hugo Cousseau qui a quand même souligné les différences d'entretien de parcours entre le Challenge Tour et le DP World Tour, et finalement que ça préparait pas trop au Tour européen.
Il était pas très content, il est pas très content. Il l'a bien dit, il l'a bien signalé au patron du Challenge Tour, c'est ce qu'il a dit dans son interview. Ouais, il est assez dur sur les tournois en Europe.
Play better,
c'est ce qu'il a fait. Et là, il est impatient donc de jouer ses trois premiers tournois. Enfin, les deux derniers tournois, même en Chine, il n'était pas très enthousiaste, on l'a entendu. Et impatient de jouer la finale en Espagne. Et puis surtout, ses trois premiers tournois en Afrique du Sud, effectivement, sur les parcours les plus beaux du monde, en tout cas les plus beaux d'Afrique.
Mais justement, on va dire que c'est pas plus mal que ces parcours sur le Challenge Tour soient un peu, on va dire, moyennasses pour certains.
Moyennasses.
Non, mais pour donner justement cette petite niaque aux joueurs et envie d'aller jouer sur le Tour européen.
Et c'est pas les parcours qui donnent la niaque, c'est le montant des dotations.
Alors, il me semble qu'à une époque, on avait posé la question à Alain de Soultré, qui était un ancien patron du Challenge Tour. On lui avait demandé à une époque d'augmenter un peu les prize money, et lui, il avait refusé justement pour ça.
Ça ne l'arrangeait pas à cause de l'argent.
Ouais, exactement.
Non, mais pour ça, les joueurs, je veux bien. Sur l'argent, je veux bien, mais sur les parcours, non. Non. Mais sur l'argent, pourquoi pas? Mais bon, c'est un peu facile de dire ça quand même.
Et puis vous descendez sur le Alps Tour, vous achetez vos sauts de balles vous-même, vous tapez des balles jaunes cassées. Bon, voilà, play better, on monte et on sauvegarde.
Sur des parcours, en plus, sur le Alps Tour.
Je crois que c'est pas la
vraie. Vraiment moyennasse.
Là, je crois qu'on peut le dire.
Là, c'est plus que moyen. Et puis surtout, ils disent tous que c'est concours de putting, tellement les parcours sont faciles. Donc, ouais, moins bien.
Allez, messieurs, on va justement parler de Lexi Thompson, qui a été invitée cette semaine à jouer sur le PGA Tour. Septième femme à jouer sur le circuit américain. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en
pas
pensez?
La huitième, non?
Non, c'est la septième.
Ah bon, c'était la huitième.
On vérifiera les chiffres.
C'est très bien, mais après, j'ai envie de dire, Michel Houille...
Oui, mais quel est le but, finalement, d'aller se confronter
On en parle.
Il y a un super but.
Sinon, on n'aurait pas parlé du tournoi du PGA Tour de cette semaine. Là, on en parle. C'est bien pour le golf féminin. Et puis imaginez qu'elle passe le cut, ce serait fabuleux. Puis c'est montré, ça permet justement, à chaque fois, on a des discussions, quel est le niveau des hommes par rapport aux femmes, est-ce qu'un bon amateur par rapport aux meilleures joueuses européennes ou françaises ou mondiales ou... Là, ça permet de comparer, et là, au moins, on a un instant T, une joueuse. Évidemment, ça ne suffit pas, mais c'est pas mal. Parce que, contrairement au tournoi mixte, là, elle va partir des mêmes boules que les messieurs. Donc, bon courage quand même.
Benjamin, vous êtes pour aussi
Je suis super pour parce que...
Super pour, même.
Je suis super pour parce que vous voyez l'exemple génial que ça donne à toutes les petites filles, ou même aussi les petits garçons, qui jouent au golf à la planète. C'est-à-dire qu'on peut s'aligner contre les hommes et peu importe le score, elle va planter le tee, même si elle doit rater le cut, elle va pas non plus jouer 90. Hein. C'est une des joueuses dans le top 15 de longueur du LPGA, même si elle va jouer des trous 40 mètres plus longs en moyenne sur chaque trou que ce qu'elle joue d'habitude, ça va donner un exemple super à la jeunesse golf du monde entier.
Si elle joue, c'est qu'elle a envie d'y aller, et déjà c'est déjà sympa. Après, je crois que Soren Stam et Oui avaient raté...
Qu'une qui a passé le cut, c'est Bebza Arias en 45.
En 45, mais je crois que, il me semble que Soren Stam rate d'un coup, et que oui, mais Soren Stam en a joué qu'un, alors que oui, on a joué...
Elles n'ont jamais été ridicules.
Elle a joué 8, et une fois, elle rate aussi d'un coup, donc non, c'est possible, et ce serait fabuleux, ce serait fabuleux.
Alors, je crois que c'était... Benjamin, vous nous avez dit en off, c'était Singh qui n'avait pas vu ça dans Vijay
Singh.
Vijay Singh
en 2003, donc quand
progressiste.
Quand Annika Sørenstam avait joué c'était le Charles Schwab Challenge. Elle s'était super bien débrouillée, mais il l'avait dit avant le tournoi. Alors déjà, d'une, j'ai pas envie de jouer avec elle. Et de deux, j'espère qu'elle va rater le cut. Et de trois, je vois pas du tout l'intérêt. Donc il a été vraiment infect, Vijay Singh, comme
un progressiste.
On n'a jamais été trop fan de Vijay Singh.
Un mec du 19e siècle. Même pas du 20e, du 19e.
Mais bon, au niveau de ses chances, je ne sais pas si tu voulais en parler dans le conduit, que JP, de ses chances de passer le cut. Elle va devoir rajouter un fer 4 dans le sac, donc virer un wedge de son sac, parce qu'elle joue sans fer 4, voire même parfois sans fer 5 sur le LPGA, des fers dont elle n'a pas besoin. Donc elle doit retirer un de ses wedges du sac, JP. Voilà, donc ça ne va quand même pas être simple. 40 mètres de plus par trou, c'est quand même quasiment 4 fers.
Est-ce que passer le cut pour une joueuse comme ça, c'est un exploit sur un... On peut parler d'exploit. Ah bah
ça n'a jamais été fait, à part en 1945. Alors oui, c'est un exploit. Et Annika Sørensen, c'est peut-être la plus grande joueuse de tous les temps. Michelle Wie, même si elle s'est un peu perdue à l'époque, c'était quand même un phénomène de longueur aussi. Et elles n'ont pas réussi. Donc oui, ce sera un exploit de Lexi Thompson.
Elle a pris à une vingtaine de mètres par ses deux partenaires de partie de Rocco. Disait que ça pouvait le faire éventuellement pour elle, pour passer le cut. Mais c'est vrai que...
Il va falloir jouer deux parties très, très solides. Quoi.
Quand on voit les différents diagrammes des analyses de stats sur le PGA Tour, si vous êtes à moins de 110 miles par heure, ce qui est le cas de Lexi Thompson de peu, mais elle est quand même nettement en dessous, elle est quand même en dessous de 110 miles par heure en vitesse de swing au driver, vous avez très peu de chances de performer sur le PGA Tour. Donc, il faudrait que toutes les étoiles s'alignent bien pour Lexi Thompson.
Allez, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, Alexi Thompson, et un petit mot Arnaud d'Agathe Lainé, hein, notre française qui a évolué sur
le Barjon, mais il faut parler d'Agathe.
Exactement,
aussi.
Sur l'Epson Tour, la deuxième division féminine, et elle a terminé sixième, ce qui veut dire, Arnaud,
Qu'elle va jouer sur le LPGA l'année prochaine, donc tant mieux, ça fait une française de plus, on lui souhaite la même réussite qu'à Céline Gouty. En tout cas, elle retourne sur le LPGA sur lequel elle a déjà évolué, voilà, très bien, très bonne nouvelle.
Elle a bien imprimé sur le Epson Tour.
Ouais. Très bon, Benjamin.
Excellent même.
Allez, avant de terminer, messieurs, on va vous montrer le journal du golf. Mais regardez,
il est à l'envers.
Regardez, non, il n'est pas à l'envers.
Mais la radio, ils font comment?
Ce mois-ci, la radio,
ils regardent
la télé. Exactement. Canal 187 de Free et 193 de Bouygues.
Et là, c'est magique.
Et là, regardez, on retourne.
Mais qui a eu cette idée de génie?
Et voilà. La couve sur cette belle photo de la Ryder Cup.
Oui, décrivez au moins pour ceux qui nous écoutent.
Voilà, c'est toute l'équipe européenne de Ryder Cup avec la coupe au milieu. Voilà, cette une qui est magnifique.
La coupe à la maison.
La coupe à la maison, exactement. Avec Benjamin, vous étiez à cette Ryder Cup.
Oui.
Ah, vous allez tout.
C'est pas moi qui ai mis le feu à la tribune.
Je vais le feuillette parce que j'ai plaisir à le feuilleter, ce journal.
D'accord, mais il faut le décrire encore une fois pour la radio.
Voilà, avec l'intérieur de la Ryder Cup.
Là, tu le tiens à l'envers aussi.
Ah oui, mince. La Ryder Cup, la Solheim Cup, bref, tout l'actu du golf du dernier mois. En tout cas, c'est sûr dans vos clubhouse, mais également en ligne, évidemment. Messieurs, un dernier mot avant de terminer.
Moi je vais revenir sur Dinard parce que donc
encore
oui parce que mon ami Gilles Paris m'a dit moi je suis du Sud-Ouest et il m'a dit que le Sud-Ouest était pas mal comme destination golfique, mais il m'a dit le meilleur trip de golf en France, c'est jouer Granville, jouer Dinard et prendre le bateau pour aller jouer Jersey au Guernesey. Voilà, donc ceux qui nous écoutent, si vous avez envie. Non, le Normand n'est pas d'accord.
Si j'adore Granville.
Pour Benjamin, c'est Vaudreuil, Léry et Rouen.
Et Gaillon. Voilà, non, c'est ça.
Le triptyque Normand.
On va profiter du golf tant qu'il fait encore beau.
Allez, merci beaucoup messieurs pour cette première édition du podcast. Et pas la dernière filmée. Merci à tous de nous avoir suivis.
Merci à Hugo Ponce à la réalisation.
Exactement, merci à Hugo à la réalisation. Et évidemment, on vous retrouve la semaine prochaine sur nos écrans Free Canal 187 et Bouygues Canal 193. Salut!